Le Rouge et le Noir, chapitre 68. Un homme puissant. Mais il y a tant de mystère dans ses démarches et d'élégance dans sa taille. Qui peut-elle être ? Schiller. Les portes du donjon s'ouvrirent de fort bonne heure le lendemain. Julien fut réveillé en sursaut. « Ah, bon Dieu ! » pensa-t-il. « Voilà mon père ! Quelle scène désagréable !» Au même instant, une femme, vêtue en paysanne, se précipita dans ses bras. Il eut peine à la reconnaître. C'était Mademoiselle de la Mole. « Méchant, je n'ai su que par ta lettre où tu étais. Ce que tu appelles ton crime, et qui n'est qu'une noble vengeance qui me montre toute la chaleur du cœur qui bat dans cette poitrine, je ne l'ai su qu'à Verrières. » Malgré ses préventions contre Mademoiselle de la Mole, que d'ailleurs il ne s'avouait pas bien nettement, Julien la trouva fort jolie. Comment ne pas voir dans toute cette façon d'agir et de parler un sentiment noble, désintéressé, bien au-dessus de tout ce qu'aurait osé une âme petite et vulgaire. Il crut encore aimer une reine, et après quelques instants, ce fut avec une rare noblesse d'élocution et de pensée qu'il lui dit « L'avenir se dessinait à mes yeux fort clairement. Après ma mort, je vous remariais à monsieur de Croisenois, qui aurait épousé une veuve. L'âme noble mais un peu romanesque de cette veuve charmante, étonnée et convertie au culte de la prudence vulgaire par un événement singulier, tragique et grand pour elle, eût daigné comprendre le mérite fort réel du jeune marquis. Vous vous seriez résignée à être heureuse du bonheur de tout le monde, la considération, les richesses, le haut rang. Mais, chère Mathilde, votre arrivée à Besançon, si elle est soupçonnée, va être un coup mortel pour monsieur de la Mole, et voilà ce que jamais je ne me pardonnerai. Je lui ai déjà causé tant de chagrin. L'académicien va dire qu'il a réchauffé un serpent dans son sein. J'avoue que je m'attendais peu à tant de froides raisons, à tant de soucis pour l'avenir, dit Mademoiselle de la Mole à demi fâchée. Ma femme de chambre, presque aussi prudente que vous, a pris un passeport pour elle, et c'est sous le nom de Madame Michelet que j'ai couru la poste. Et Madame Michelet a pu arriver aussi facilement jusqu'à moi ? Ah, tu es toujours l'homme supérieur, celui que j'ai distingué. D'abord, j'ai offert 100 francs à un secrétaire de juge qui prétendait que mon entrée dans ce donjon était impossible. Mais l'argent reçu, cet honnête homme m'a fait attendre, a élevé des objections, j'ai pensé qu'il songeait à me voler. Elle s'arrêta. Eh bien ? Dit Julien. Ne te fâche pas, mon petit Julien, lui dit-elle en l'embrassant. J'ai été obligée de dire mon nom à ce secrétaire, qui me prenait pour une jeune ouvrière de Paris, amoureuse du beau Julien. En vérité, ce sont ses termes. Je lui ai juré que j'étais ta femme, et j'aurai une permission pour te voir chaque jour. La folie est complète, pensa Julien. Je n'ai pu l'empêcher. Après tout, monsieur de la Mole est un si grand seigneur que l'opinion saura bien trouver une excuse au jeune colonel qui épousera cette charmante veuve. Ma mort prochaine couvrira tout. Et il se livra avec délices à l'amour de Mathilde. C'était de la folie, de la grandeur d'âme, tout ce qu'il y a de plus singulier. Elle lui proposa sérieusement de se tuer avec lui. Après ses premiers transports, et lorsqu'elle se fut rassasiée du bonheur de voir Julien, une curiosité vive s'empara tout à coup de son âme. Elle examinait son amant, qu'elle trouva bien au-dessus de ce qu'elle s'était imaginé. Boniface de la Mole lui semblait ressuscité, mais plus héroïque. Mathilde vit les premiers avocats du pays, qu'elle offensa en leur offrant de l'or trop crûment. Mais ils finirent par accepter. Elle arriva rapidement à cette idée qu'en fait de choses douloureuses et d'une haute portée, tout dépendait à Besançon de monsieur l'abbé de Frilair. Sous le nom obscur de madame Michelet, elle trouva d'abord d'insurmontables difficultés pour parvenir jusqu'au tout-puissant congréganiste. mais le bruit de la beauté d'une jeune marchande de mode, folle d'amour, est venue de Paris à Besançon pour consoler le jeune abbé Julien Sorel, se répandit dans la ville. Mathilde, courant seule à pied dans les rues de Besançon, elle espérait n'être pas reconnue. Dans tous les cas, elle ne croyait pas inutile à sa cause de produire une grande impression sur le peuple. Sa folie songeait à le faire révolter pour sauver Julien marchant à la mort. Mademoiselle de La Mole croyait être vêtue simplement et comme il convient à une femme dans la douleur. Elle l'était de façon à attirer tous les regards. Elle était à Besançon l'objet de l'attention de tous, lorsque, après 8 jours de sollicitation, elle obtint une audience de Monsieur de Frilair. Quel que fût son courage, les idées de congréganiste influent et de profonde et prudente scélératesse étaient tellement liées dans son esprit qu'elle trembla en sonnant à la porte de l'évêché. Elle pouvait à peine marcher lorsqu'il lui fallut monter l'escalier qui conduisait à l'appartement du premier grand vicaire. La solitude du palais épiscopal lui donnait froid. Je pus m'asseoir sur un fauteuil et ce fauteuil me saisir les bras, j'aurais disparu. À qui ma femme de chambre pourra-t-elle me demander? Le capitaine de gendarmerie se gardera bien d'agir. Je suis isolée dans cette grande ville. À son premier regard dans l'appartement, mademoiselle de La Mole fut rassurée. D'abord, c'était un laquais en livrée fort élégante qui lui avait ouvert. Le salon où on la fit attendre étalait ce luxe fin et délicat, si différent de la magnificence grossière et que l'on ne trouve à Paris que dans les meilleures maisons. Dès qu'elle aperçut M. de Frilair qui venait à elle d'un air paterne, toutes les idées de crime atroce disparurent. Elle ne trouva pas même sur cette belle figure l'empreinte de cette vertu énergique et quelque peu sauvage, si antipathique à la société de Paris. Le demi-sourire qui animait les traits du prêtre, qui disposait de tout à Besançon, annonçait l'homme de bonne compagnie, le prélat instruit, l'administrateur habile. Mathilde se crut à Paris. Il ne fallut que quelques instants à Monsieur de Frilair pour amener Mathilde à lui avouer qu'elle était la fille de son puissant adversaire, le marquis de La Mole. « Je ne suis point en effet Madame Michelet, » dit-elle en reprenant toute la hauteur de son maintien. « Et cet aveu me coûte peu, car je viens vous consulter, monsieur, sur la possibilité de procurer l'évasion de Monsieur de La Vernaille. D'abord, il n'est coupable que d'une étourderie. La femme sur laquelle il a tiré se porte bien. En second lieu, pour séduire les subalternes, je puis remettre sur le champ 50 000 francs et m'engager pour le double. Enfin, ma reconnaissance et celle de ma famille ne trouvera rien d'impossible pour qui aura sauvé Monsieur de La Vernaille. » Monsieur de Frilair paraissait étonné de ce nom. Mathilde lui montra plusieurs lettres du ministre de la Guerre adressées à M. Julien Sorel de La Vernaille. « Vous voyez, monsieur, que mon père se chargeait de sa fortune. Je l'ai épousée en secret. Mon père désirait qu'il fût officier supérieur avant de déclarer ce mariage un peu singulier pour une La Mole. » Mathilde remarqua que l'expression de la bonté et d'une gaieté douce s'évanouissait rapidement à mesure que M. de Frilair arrivait à des découvertes importantes. Une finesse mêlée de fausseté profonde se peignit sur sa figure. L'abbé avait des doutes. Il relisait lentement les documents officiels. « Quel parti puis-je tirer de ces étranges confidences ?» se disait-il. « Me voici tout d'un coup en relation intime avec une amie de la célèbre maréchale de Fervaques, nièce toute puissante de Monseigneur l'évêque de par qui l'on est évêque en France. Ce que je regardais comme reculé dans l'avenir se présente à l'improviste. Ceci peut me conduire au but de tous mes vœux. » D'abord, Mathilde fut effrayée du changement rapide de la physionomie de cet homme si puissant, avec lequel elle se trouvait seule dans un appartement reculé. « Mais quoi ? » se dit-elle bientôt. « La pire chance n'eût-elle pas été de ne faire aucune impression sur le froid égoïsme d'un prêtre rassasié de pouvoir et de jouissance ?» Éblouie de cette voie rapide et imprévue qui s'ouvrait à ses yeux pour arriver à l'épiscopat, étonnée du génie de Mathilde, un instant, M. de Frilair ne fut plus sur ses gardes. Mademoiselle de la Mole le vit presque à ses pieds, ambitieux et vif jusqu'au tremblement nerveux. « Tout s'éclaircit, » pensa-t-elle. « Rien ne sera impossible ici à l'ami de Madame de Fervaques. » Malgré un sentiment de jalousie encore bien douloureux, elle eut le courage d'expliquer que Julien était l'ami intime de la maréchale et rencontrait presque tous les jours chez elle Monseigneur l'évêque de... Quand l'on tirerait au sort 4 ou 5 fois de suite une liste de 36 jurés parmi les notables habitants de cet appartement, dit le grand vicaire avec l'âpre regard de l'ambition et en appuyant sur les mots. « Je me considérerais comme bien peu chanceux si dans chaque liste je ne comptais pas 8 ou 10 amis et les plus intelligents de la troupe. Presque toujours j'aurais la majorité, plus qu'elle-même, pour condamner. Voyez, mademoiselle, avec quelle grande facilité je puis faire absoudre. » L'abbé s'arrêta tout à coup, comme étonné du son de ses paroles. Il avouait des choses que l'on ne dit jamais aux profanes. Mais à son tour, il frappa Mathilde de stupeur quand il lui apprit que ce qui étonnait et intéressait surtout la société de Besançon dans l'étrange aventure de Julien, c'est qu'il avait inspiré autrefois une grande passion à Madame de Rênal et l'avait longtemps partagée. Monsieur de Frilair s'aperçut facilement du trouble extrême que produisait son récit. « J'ai ma revanche, » pensa-t-il. « Enfin, voici un moyen de conduire cette petite personne si décidée. Je tremblais de n'y pas réussir. » L'air distingué et peu facile à mener redoublait à ses yeux le charme de la rare beauté qu'il voyait presque suppliante devant lui. Il reprit tout son sang-froid et n'hésita point à retourner le poignard dans son cœur. « Je ne serais pas surpris après tout, » lui dit-il d'un air léger, quand nous apprendrions que c'est par jalousie que M. Sorel a tiré 2 coups de pistolet à cette femme, autrefois tant aimée. Il s'en faut bien qu'elle soit sans agrément, et depuis peu, elle voyait fort souvent un certain abbé Marquineau de Dijon, espèce de janséniste sans mœurs, comme ils sont tous. M. de Frilair tortura voluptueusement et à loisir le cœur de cette jolie fille, dont il avait surpris le côté faible. « Pourquoi, disait-il en arrêtant des yeux ardents sur Mathilde, Monsieur Sorel aurait-il choisi l'église, si ce n'est parce que, précisément, en cet instant, son rival y célébrait la messe? Tout le monde accorde infiniment d'esprit et encore plus de prudence à l'homme heureux que vous protégez. Quoi de plus simple que de se cacher dans les jardins de Monsieur de Rênal qu'il connaît si bien? Là, avec la presque certitude de n'être ni vu, ni pris, ni soupçonné, il pouvait donner la mort à la femme dont il était jaloux. Ce raisonnement, si juste en apparence, acheva de jeter Mathilde hors d'elle-même. Cette âme altière, mais saturée de toute cette prudence sèche, qui passe dans le grand monde pour peindre fidèlement le cœur humain, n'était pas faite pour comprendre vite le bonheur de se moquer de toute prudence qui peut être si vif pour une âme ardente. Dans les hautes classes de la société de Paris, où Mathilde avait vécu, la passion ne peut que bien rarement se dépouiller de prudence, et c'est du 5e étage qu'on se jette par la fenêtre. Enfin, l'abbé de Frilair fut sûr de son empire. Il fit entendre à Mathilde, sans doute il mentait, qu'il pouvait disposer à son gré du ministère public chargé de soutenir l'accusation contre Julien. Après que le sort aurait désigné les 36 jurés de la session, il ferait une démarche directe et personnelle envers 30 jurés au moins. Si Mathilde n'avait pas semblé si jolie à monsieur de Frilair, il ne lui eût parlé aussi clairement qu'à la 5e ou 6e entrevue. Chapitre 69. L'intrigue. Castres 1676. Un frère vient d'assassiner sa sœur dans la maison voisine de la mienne. Ce gentilhomme était déjà coupable d'un meurtre. Son père, en faisant distribuer secrètement 500 écus au conseiller, lui a sauvé la vie. Locke voyage en France. En sortant de l'évêché, Mathilde n'hésita pas à envoyer un courrier à madame de Fervaques. La crainte de se compromettre ne l'arrêta pas une seconde. Elle conjurait sa rivale d'obtenir une lettre pour monsieur de Frilair, écrite en entier de la main de monseigneur l'évêque de... Elle allait jusqu'à la supplier d'accourir elle-même à Besançon. Ce trait fut héroïque de la part d'une âme jalouse et fière. D'après le conseil de Fouquet, elle avait eu la prudence de ne point parler de ses démarches à Julien. Sa présence le troublait assez sans cela. Plus honnête homme à l'approche de la mort qu'il ne l'avait été durant sa vie, il avait des remords non seulement envers M. de la Mole, mais aussi pour Mathilde. « Quoi donc ? » se disait-il. « Je trouve auprès d'elle des moments de distraction et même de l'ennui. Elle se perd pour moi, et c'est ainsi que je l'en récompense. Serais-je donc un méchant ?» Cette question l'eût bien peu occupé quand il était ambitieux. Alors, ne pas réussir était la seule honte à ses yeux. Son malaise moral auprès de Mathilde était d'autant plus décidé qu'il lui inspirait en ce moment la passion la plus extraordinaire et la plus folle. Elle ne parlait que des sacrifices étranges qu'elle voulait faire pour le sauver. Exaltée par un sentiment dont elle était fière et qui l'emportait sur tout son orgueil, elle eût voulu ne pas laisser passer un instant de sa vie sans le remplir par quelques démarches extraordinaires. Les projets les plus étranges, les plus périlleux pour elle, remplissaient ses longs entretiens avec Julien. Les geôliers, bien payés, la laissaient régner dans la prison. Les idées de Mathilde ne se bornaient pas au sacrifice de sa réputation. Peu lui importait de faire connaître son état à toute la société. Se jeter à genoux pour demander la grâce de Julien, devant la voiture du roi allant au galop, attirer l'attention du prince, au risque de se faire mille fois écraser, était une des moindres chimères que rêvait cette imagination exaltée et courageuse. Par ses amis employés auprès du roi, elle était sûre d'être admise dans les parties réservées du parc de Saint-Cloud. Julien se trouvait peu digne de tant de dévouement. À vrai dire, il était fatigué d'héroïsme. C'eût été à une tendresse simple, naïve et presque timide qu'il se fût trouvé sensible, tandis qu'au contraire, il fallait toujours l'idée d'un public et des autres à l'âme hautaine de Mathilde. Au milieu de toutes ces angoisses, de toutes ces craintes pour la vie de cet amant auquel elle ne voulait pas survivre, elle avait un besoin secret d'étonner le public par l'excès de son amour et la sublimité de ses entreprises. Julien prenait de l'humeur de ne point se trouver touché de tout cet héroïsme. Qu'eût-ce été s'il eût connu toutes les folies dont Mathilde accablait l'esprit dévoué, mais éminemment raisonnable et borné du bon Fouquet. Il ne savait trop que blâmer dans le dévouement de Mathilde, car lui aussi eût sacrifié toute sa fortune et exposé sa vie au plus grand hasard pour sauver Julien. Il était stupéfait de la quantité d'or jetée par Mathilde. Les premiers jours, les sommes ainsi dépensées en imposèrent à Fouquet, qui avait pour l'argent toute la vénération d'un provincial. Enfin, il découvrit que les projets de Mademoiselle de la Mole variaient souvent, et, à son grand soulagement, trouva un mot pour blâmer ce caractère si fatigant pour lui. Elle était changeante. De cette épithète à celle de « mauvaise tête », le plus grand anathème en province, il n'y a qu'un pas. « Il est singulier », se disait Julien un jour que Mathilde sortait de sa prison. qu'une passion si vive et dont je suis l'objet me laisse tellement insensible. Et je l'adorais il y a 2 mois. J'avais bien lu que l'approche de la mort désintéresse de tout. Mais il est affreux de se sentir ingrat et de ne pouvoir se changer. Je suis donc un égoïste ? Il se faisait à ce sujet les reproches les plus humiliants. L'ambition était morte en son cœur. Une autre passion y était sortie de ses cendres. Il l'appelait le remords d'avoir assassiné Madame de Rênal. Dans le fait, il en était éperdument amoureux. Il trouvait un bonheur singulier quand, laissé absolument seul et sans crainte d'être interrompu, il pouvait se livrer tout entier au souvenir des journées heureuses qu'il avait passées jadis à Verrières ou à Vergy. Les moindres incidents de ces temps trop rapidement envolés avaient pour lui une fraîcheur et un charme irrésistibles. Jamais il ne pensait à ses succès de Paris. Il en était ennuyé. Ses dispositions, qui s'accroissaient rapidement, furent en partie devinées par la jalousie de Mathilde. Elle s'apercevait fort clairement qu'elle avait à lutter contre l'amour de la solitude. Quelquefois, elle prononçait avec terreur le nom de Madame de Rênal. Elle voyait frémir Julien. Sa passion n'eut désormais ni borne ni mesure. « S'il meurt, je meurs après lui », se disait-elle avec toute la bonne foi possible. Que diraient les salons de Paris en voyant une fille de mon rang adorer à ce point un amant destiné à la mort? Pour trouver de tels sentiments, il faut remonter au temps des héros. C'était des amours de ce genre qui faisaient palpiter les cœurs du siècle de Charles IX et de Henri III. Au milieu des transports les plus vifs, quand elle serrait contre son cœur la tête de Julien, « Quoi ? » se disait-elle avec horreur. « Cette tête charmante serait destinée à tomber ? Eh bien, » ajoutait-elle enflammée d'un héroïsme qui n'était pas sans bonheur, « mes lèvres, qui se pressent contre ses jolis cheveux, seront glacées moins de 24 heures après. » Les souvenirs de ces moments d'héroïsme et d'affreuse volupté l'attachaient d'une étreinte invincible. L'idée de suicide, si occupante par elle-même et jusqu'ici si éloignée de cette âme altière, y pénétra et bientôt y régna avec un empire absolu. Non, le sang de mes ancêtres ne s'est point attiédi en descendant jusqu'à moi, se disait Mathilde avec orgueil. J'ai une grâce à vous demander, lui dit un jour son amant. Mettez votre enfant en nourrice à Verrières. Madame de Rênal surveillera la nourrice. Ce que vous me dites là est bien dur. Et Mathilde pâlit. Il est vrai, et je t'en demande 1000 fois pardon, s'écria Julien sortant de sa rêverie et la serrant dans ses bras. Après avoir séché ses larmes, il revint à sa pensée, mais avec plus d'adresse. Il avait donné à la conversation un tour de philosophie mélancolique. Il parlait de cet avenir qui allait sitôt se fermer pour lui. « Il faut convenir, cher ami, que les passions sont un accident dans la vie, mais cet accident ne se rencontre que chez les âmes supérieures. La mort de mon fils serait au fond un bonheur pour l'orgueil de votre famille. C'est ce que devineront les subalternes. La négligence sera le lot de cet enfant du malheur et de la honte. J'espère qu'à une époque que je ne veux point fixer, mais que pourtant mon courage entrevoit, vous obéirez à mes dernières recommandations. Vous épouserez monsieur le marquis de Croisenois. »
Quoi ? Déshonoré ?
Le déshonneur ne pourra prendre sur un nom tel que le vôtre. Vous serez une veuve et la veuve d'un fou, voilà tout. J'irai plus loin. Mon crime n'ayant point l'argent pour moteur, ne sera point déshonorant. Peut-être à cette époque, quelque législateur philosophe aura obtenu des préjugés de ses contemporains la suppression de la peine de mort. Alors, quelque voix amie dira comme un exemple, « Tenez, le premier époux de Mademoiselle de la Mole était un fou, mais non pas un méchant homme, un scélérat. Il fut absurde de faire tomber cette tête. alors ma mémoire ne sera point infâme, du moins après un certain temps. Votre position dans le monde, votre fortune, et permettez-moi de le dire, votre génie, feront jouer à monsieur de Croisenois, devenu votre époux, un rôle auquel tout seul il ne saurait atteindre. Il n'a que de la naissance et de la bravoure, et ses qualités toutes seules, qui faisaient un homme accompli en 1729, sont un anachronisme un siècle plus tard, et ne donnent que des prétentions. Il faut encore d'autres choses pour se placer à la tête de la jeunesse française. Vous porterez le secours d'un caractère ferme et entreprenant au parti politique où vous jetterez votre époux. Vous pourrez succéder aux Chevreuse et aux Longueville de la Fronde. Mais alors, cher ami, le feu céleste qui vous anime en ce moment sera un peu attiédi. Permettez-moi de vous le dire, ajouta-t-il après beaucoup d'autres phrases préparatoires. Dans 15 ans, vous regarderez comme une folie excusable, mais pourtant comme une folie, l'amour que vous avez eu pour moi. Il s'arrêta tout à coup et devint rêveur. Il se trouvait de nouveau vis-à-vis cette idée si choquante pour Mathilde. Dans 15 ans, madame de Rênal adorera mon fils et vous l'aurez oublié. Chapitre 70. La tranquillité. C'est parce qu'alors j'étais fou qu'aujourd'hui je suis sage. Ô philosophe, qui ne vois rien que d'instantané, que tes vues sont courtes! Ton œil n'est pas fait pour suivre le travail souterrain des passions. Goethe. Cet entretien fut coupé par un interrogatoire, suivi d'une conférence avec l'avocat chargé de la défense. Ces moments étaient les seuls absolument désagréables d'une vie pleine d'incurie et de rêveries tendres. Il y a meurtre, et meurtre avec préméditation, dit Julien au juge comme à l'avocat. « J'en suis fâché, messieurs, » ajouta-t-il en souriant, « mais ceci réduit votre besogne à bien peu de choses. » Après tout, se disait Julien, quand il fut parvenu à se délivrer de ces deux êtres, « il faut que je sois brave, et apparemment plus brave que ces deux hommes. Ils regardent comme le comble des maux, comme le roi des épouvantements, ce duel à issue malheureuse, dont je ne m'occuperai sérieusement que le jour même. » C'est que j'ai connu un plus grand malheur, continua Julien en philosophant avec lui-même. Je souffrais bien autrement durant mon premier voyage à Strasbourg, quand je me croyais abandonné par Mathilde. Et pour voir dire que j'ai désiré avec tant de passion cette intimité parfaite qui aujourd'hui me laisse si froid. Dans le fait, je suis plus heureux seul que quand cette fille si belle partage ma solitude. L'avocat, homme de règles et de formalités, le croyait fou, et pensait avec le public que c'était la jalousie qui lui avait mis le pistolet à la main. Un jour, il hasarda de faire entendre à Julien que cette allégation, vraie ou fausse, serait un excellent moyen de plaidoirie. Mais l'accusé redevint en un clin d'œil un être passionné et incisif. « Sur votre vie, monsieur !» s'écria Julien hors de lui. « Souvenez-vous de ne plus proférer cet abominable mensonge. » Le prudent avocat eut peur un instant d'être assassiné. Il préparait sa plaidoirie parce que l'instant décisif approchait rapidement. Besançon et tout le département ne parlaient que de cette cause célèbre. Julien ignorait ce détail. Il avait prié qu'on ne lui parlât jamais de ces sortes de choses. Ce jour-là, Fouquet et Mathilde, ayant voulu lui apprendre certains bruits publics, fort propres selon eux à donner des espérances, Julien les avait arrêtés dès le premier mot. « Laissez-moi ma vie idéale, vos petites tracasseries, vos détails de la vie réelle, plus ou moins froissants pour moi, me tireraient du ciel. On meurt comme on peut, moi je ne veux penser à la mort qu'à ma manière, que m'importent les autres ?» Mes relations avec les autres vont être tranchées brusquement. De grâce, ne me parlez plus de ces gens-là. C'est bien assez de voir le juge et l'avocat. Au fait, se disait-il à lui-même, et il paraît que mon destin est de mourir en rêvant. Un être obscur tel que moi, sûr d'être oublié avant 15 jours, serait bien dupe, il faut l'avouer, de jouer la comédie. Il est singulier pourtant que je n'ai connu l'art de jouir de la vie depuis que j'en vois le terme si près de moi. Il passait ses dernières journées à se promener sur l'étroite terrasse au haut du donjon, fumant d'excellents cigares que Mathilde avait envoyé chercher en Hollande par un courrier, et sans se douter que son apparition était attendue chaque jour par tous les télescopes de la ville. Sa pensée était à Vergy. Jamais il ne parlait de Madame de Rênal à Fouquet, mais 2 ou 3 fois, cet ami lui dit qu'elle se rétablissait rapidement et ce mot retentit dans son cœur. Pendant que l'âme de Julien était presque toujours tout entière dans le pays des idées, Mathilde, occupée des choses réelles, comme il convient à un cœur aristocrate, avait su avancer à un tel point l'intimité de la correspondance directe entre Madame de Fervaques et Monsieur de Frilair, que déjà le grand mot « évêché » avait été prononcé. Le vénérable prélat, chargé de la feuille des bénéfices, ajouta en apostille à une lettre de sa nièce. « Ce pauvre Sorel n'est qu'un étourdi, j'espère qu'on nous le rendra. » À la vue de ces lignes, Monsieur de Frilair fut comme hors de lui, et il ne doutait pas de sauver Julien. Sans cette loi jacobine qui a prescrit la formation d'une liste innombrable de jurés et qui n'a d'autre but réel que d'enlever toute influence aux gens bien nés, disait-il à Mathilde la veille du tirage au sort des 36 jurés de la session. J'aurais répondu du verdict. J'ai bien fait à quitter le curé. Ce fut avec plaisir que le lendemain, parmi les noms sortis de l'urne, Monsieur de Frilair trouva 5 congréganistes de Besançon, et parmi les étrangers à la ville, les noms de messieurs Valenod, de Moirod, de Cholin. « Je réponds d'abord de ces 8 jurés-ci, dit-il à Mathilde. Les 5 premiers sont des machines. Valenod est mon agent, Moirod me doit tout. Ce Cholin est un imbécile qui a peur de tout. » Le journal répandit dans le département les noms des jurés, et Madame de Rênal, à l'inexprimable terreur de son mari, voulut venir à Besançon. Tout ce que Monsieur de Rênal put obtenir fut qu'elle ne quitterait point son lit afin de ne pas avoir le désagrément d'être appelée en témoignage. « Vous ne comprenez pas ma position, » disait l'ancien maire de Verrières. « Je suis maintenant libéral de la défection, comme ils disent. » Nul doute que ce polisson de Valenod et Monsieur de Frilair n'obtiennent facilement du procureur général et des juges tout ce qui pourra m'être désagréable. Madame de Rênal céda sans peine aux ordres de son mari. « Si je paraissais à la cour d'assises, se disait-elle, j'aurais l'air de demander vengeance. » Malgré toutes les promesses de prudence faites au directeur de sa conscience et à son mari, à peine arrivée à Besançon, elle écrivit de sa main à chacun des 36 jurés. « Je ne paraîtrai point le jour du jugement, monsieur, parce que ma présence pourrait jeter de la défaveur sur la cause de monsieur Sorel. Je ne désire qu'une chose au monde, et avec passion, c'est qu'il soit sauvé. N'en doutez point. L'affreuse idée qu'à cause de moi un innocent a été conduit à la mort empoisonnerait le reste de ma vie. » Et sans doute l'abrégerait. Comment pourriez-vous le condamner à mort, tandis que moi je vis? Non, sans doute, la société n'a point le droit d'arracher la vie, et surtout à un être tel que Julien Sorel. Tout le monde à Verrières lui a connu des moments d'égarement. Ce pauvre jeune homme a des ennemis puissants, mais même parmi ses ennemis, et combien n'en a-t-il pas? Quel est celui qui met en doute ses admirables talents et sa science profonde? Ce n'est pas un sujet ordinaire que vous allez juger, monsieur. Durant près de 18 mois, nous l'avons tous connu, pieux, sage, appliqué. mais deux ou trois fois par an, il était saisi par des accès de mélancolie qui allaient jusqu'à l'égarement. Toute la ville de Verrières, tous nos voisins de Vergy, où nous passons la belle saison, ma famille entière, monsieur le sous-préfet lui-même, rendront justice à sa piété exemplaire. Il sait par cœur toute la Sainte Bible. Un impie se fût-il appliqué pendant des années à apprendre le livre saint. Mes fils auront l'honneur de vous présenter cette lettre. Ce sont des enfants. Daignez les interroger, monsieur. Ils vous donneront sur ce pauvre jeune homme tous les détails qui seraient encore nécessaires pour vous convaincre de la barbarie qu'il y aurait à le condamner. Bien loin de me venger, vous me donneriez la mort. Qu'est-ce que ses ennemis pourront opposer à ce fait ? La blessure qui en a été le résultat d'un de ces moments de folie que mes enfants eux-mêmes remarquaient chez leur précepteur est tellement peu dangereuse qu'après moins de 2 mois, elle m'a permis de venir en poste de Verrières à Besançon. Si j'apprends, monsieur, que vous hésitiez le moins du monde à soustraire à la barbarie des lois un être si peu coupable, je sortirai de mon lit où me retiennent uniquement les ordres de mon mari et j'irai me jeter à vos pieds. Déclarez, monsieur, que la préméditation n'est pas constatée et vous n'aurez pas à vous reprocher le sang d'un innocent. Etc. Chapitre 71. Le jugement. Le pays se souviendra longtemps de ce procès célèbre. L'intérêt pour l'accusé était porté jusqu'à l'agitation. C'est que son crime était étonnant et pourtant pas atroce. L'eût-il été, ce jeune homme était si beau. Sa haute fortune, sitôt finie, augmentait l'attendrissement. Le condamneront-ils ? Demandaient les femmes aux hommes de leur connaissance, et on les voyait pâlissantes attendre la réponse. Sainte-Beuve. Enfin parut ce jour, tellement redouté de madame de Rênal et de Mathilde. L'aspect étrange de la ville redoublait leur terreur, et ne laissait pas sans émotion même l'âme ferme de Fouquet. Toute la province était accourue à Besançon pour voir juger cette cause romanesque. Depuis plusieurs jours, il n'y avait plus de place dans les auberges. Monsieur le président des assises était assailli par des demandes de billets. Toutes les dames de la ville voulaient assister au jugement. On criait dans les rues le portrait de Julien, etc. Mathilde tenait en réserve pour ce moment suprême une lettre écrite en entier de la main de Monseigneur l'évêque de Hun. Ce prélat, qui dirigeait l'Église de France et faisait des évêques, daignait demander l'acquittement de Julien. La veille du jugement, Mathilde porta cette lettre au tout-puissant grand vicaire. À la fin de l'entrevue, comme elle s'en allait fondant en larmes, « Je réponds de la déclaration du jury, » lui dit Monsieur de Frilair, sortant enfin de sa réserve diplomatique, et presque ému lui-même. Parmi les 12 personnes chargées d'examiner si le crime de votre protégé est constant, et surtout s'il y a eu préméditation, je compte 6 amis dévoués à ma fortune, et je leur ai fait entendre qu'il dépendait d'eux de me porter à l'épiscopat. Le baron Valenod, que j'ai fait maire de Verrières, dispose entièrement de 2 de ses administrés, messieurs de Moirot et de Cholin. À la vérité, le sort nous a donné pour cette affaire 2 jurés fort mal pensants. Mais, quoique ultra-libéraux, ils sont fidèles à mes ordres dans les grandes occasions, et je les ai fait prier de voter contre monsieur Valenod. J'ai appris qu'un 6e juré, industriel immensément riche et bavard libéral, aspire en secret à une fourniture au ministère de la guerre, et sans doute il ne voudrait pas me déplaire. Je lui ai fait dire que monsieur de Valenod a mon dernier mot. « Et quel est ce monsieur Valenod ? » dit Mathilde inquiète. « Si vous le connaissiez, vous ne pourriez douter du succès. C'est un parleur audacieux, impudent, grossier, fait pour mener des sots. 1814 l'a pris à la misère, et je vais en faire un préfet. Il est capable de battre les autres jurés s'ils ne veulent pas voter à sa guise. » Mathilde fut un peu rassurée. Une autre discussion l'attendait dans la soirée. Pour ne pas prolonger une scène désagréable et dont à ses yeux le résultat était certain, Julien était résolu à ne pas prendre la parole. « Mon avocat parlera, c'est bien assez, » dit-il à Mathilde. « Je ne serai que trop longtemps exposé en spectacle à tous mes ennemis. Ces provinciaux ont été choqués de la fortune rapide que je vous dois, et croyez-moi, il n'en est pas un qui ne désire ma condamnation, sauf à pleurer comme un sot quand on me mènera à la mort. » « Il désire vous voir humilié, il n'est que trop vrai, » répondit Mathilde. « Mais je ne les crois point cruels. Ma présence à Besançon et le spectacle de ma douleur ont intéressé toutes les femmes. Votre jolie figure fera le reste. Si vous dites un mot devant vos juges, tout l'auditoire est pour vous, » etc. Le lendemain, à 9 heures, quand Julien descendit de sa prison pour aller dans la grande salle du palais de justice, ce fut avec beaucoup de peine que les gendarmes parvinrent à écarter la foule immense entassée dans la cour. Julien avait bien dormi, il était fort calme et n'éprouvait d'autre sentiment qu'une pitié philosophique pour cette foule d'envieux qui, sans cruauté, allait applaudir à son arrêt de mort. Il fut bien surpris lorsque, retenu plus d'un quart d'heure au milieu de la foule, il fut obligé de reconnaître que sa présence inspirait au public une pitié tendre. Il n'entendit pas un seul propos désagréable. « Ces provinciaux sont moins méchants que je le croyais, » se dit-il. En entrant dans la salle de jugement, il fut frappé de l'élégance de l'architecture. C'était un gothique propre, et une foule de jolies petites colonnes taillées dans la pierre avec le plus grand soin. Il se crut en Angleterre. Mais bientôt, toute son attention fut absorbée par 12 ou 15 jolies femmes qui, placées vis-à-vis la sellette de l'accusé, remplissaient les 3 balcons au-dessus des juges et des jurés. En se retournant vers le public, il vit que la tribune circulaire qui règne au-dessus de l'amphithéâtre était rempli de femmes. La plupart étaient jeunes et lui semblèrent fort jolies. Leurs yeux étaient brillants et remplis d'intérêt. Dans le reste de la salle, la foule était énorme. On se battait aux portes et les sentinelles ne pouvaient obtenir le silence. Quand tous les yeux qui cherchaient Julien s'aperçurent de sa présence, en le voyant occuper la place un peu élevée réservée à l'accusé, il fut accueilli par un murmure d'étonnement et de tendre intérêt. On eût dit ce jour-là qu'il n'avait pas 20 ans. Il était mis fort simplement, mais avec une grâce parfaite. Ses cheveux et son front étaient charmants. Mathilde avait voulu présider elle-même à sa toilette. La pâleur de Julien était extrême. À peine assis sur la sellette, il entendit dire de tous côtés « Dieu, comme il est jeune !» « Mais c'est un enfant. Il est bien mieux que son portrait. » « Mon accusé, lui dit le gendarme assis à sa droite, voyez-vous ces 6 dames qui occupent ce balcon ?» Le gendarme lui indiquait une petite tribune en saillie au-dessus de l'amphithéâtre où sont placés les jurés. « C'est madame la préfète, » continua le gendarme. « À côté, madame la marquise de M. Celle-là vous aime bien. » Je l'ai entendu parler au juge d'instruction. Après, c'est madame Derville. Madame Derville ? S'écria Julien, et une vive rougeur couvrit son front. Au sortir d'ici, pensa-t-il, elle va écrire à madame de Rênal. Il ignorait l'arrivée de madame de Rênal à Besançon. Les témoins furent entendus. Dès les premiers mots de l'accusation, soutenus par l'avocat général, 2 de ces dames placées dans le petit balcon, tout à fait en face de Julien, fondirent en larmes. Madame Derville ne s'attendrit point ainsi, pensa Julien. Cependant, il remarqua qu'elle était fort rouge. L'avocat général faisait du pathos en mauvais français sur la barbarie du crime commis. Julien observa que les voisines de madame Derville avait l'air de le désapprouver vivement. Plusieurs jurés, apparemment de la connaissance de ces dames, leur parlaient et semblaient les rassurer. « Voilà qui ne laisse pas d'être de bon augure, » pensa Julien. Jusque-là, il s'était senti pénétré d'un mépris sans mélange pour tous les hommes qui assistaient au jugement. L'éloquence plate de l'avocat général augmenta ce sentiment de dégoût. Mais peu à peu, la sécheresse d'âme de Julien disparut devant les marques d'intérêt dont il était évidemment l'objet. Il fut content de la mine ferme de son avocat. « Pas de phrase, » lui dit-il tout bas comme il allait prendre la parole. Toute l'emphase pillée à Bossuet qu'on a étalée contre vous, vous a servi, dit l'avocat. En effet, à peine avait-il parlé pendant 5 minutes que presque toutes les femmes avaient leur mouchoir à la main. L'avocat, encouragé, adressa aux jurés des choses extrêmement fortes. Julien frémit. Il se sentait sur le point de verser des larmes. Grand Dieu, que diront mes ennemis ? Il allait céder à l'attendrissement qui le gagnait lorsque, heureusement pour lui, il surprit un regard insolent de M. le baron de Valneau. « Les yeux de ce cuistre sont flamboyants, se dit-il. Quel triomphe pour cette âme basse! Quand mon crime n'aurait amené que cette seule circonstance, je devrais le maudire. Dieu sait ce qu'il dira de moi à Madame de Rênal. » Cette idée effaça toutes les autres. Bientôt après, Julien fut rappelé à lui-même par les marques d'assentiment du public. L'avocat venait de terminer sa plaidoirie. Julien se souvint qu'il était convenable de lui serrer la main. Le temps avait passé rapidement. On apporta des rafraîchissements à l'avocat et à l'accusé. Ce fut alors seulement que Julien fut frappé d'une circonstance. Aucune femme n'avait quitté l'audience pour aller dîner. « Ma foi, je meurs de faim, » dit l'avocat. « Et vous ?»«
Moi de même, » répondit Julien.
« Voyez, voilà madame la préfète qui reçoit aussi son dîner, » lui dit l'avocat en lui indiquant le petit balcon. « Bon courage, tout va bien. » La séance recommença. Comme le président faisait son résumé, minuit sonna. Le président fut obligé de s'interrompre. Au milieu du silence de l'anxiété universelle, le retentissement de la cloche de l'horloge remplissait la salle. « Voilà le dernier de mes jours qui commence, » pensa Julien. Bientôt, il se sentit enflammé par l'idée du devoir. Il avait dominé jusque-là son attendrissement et gardé sa résolution de ne point parler. Mais quand le président des assises lui demanda s'il avait quelque chose à ajouter, il se leva. Il voyait devant lui les yeux de Madame Derville, qui, aux lumières, lui semblèrent bien brillants. « Pleurerait-elle par hasard ? » pensa-t-il. Messieurs les jurés, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Mais voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. Je ne vous demande aucune grâce, continua Julien en affermissant sa voix. Je ne me fais point illusion. La mort m'attend. Elle sera juste. J'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Madame de Rênal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est atroce. Et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà mon crime, messieurs, et il sera puni avec d'autant plus de sévérité que, dans le fait, je ne suis point jugé par mes pairs.
Je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis, mais uniquement des bourgeois indignés. » Pendant 20 minutes, Julien parla sur ce ton. Il dit tout ce qu'il avait sur le cœur. L'avocat général, qui aspirait aux faveurs de l'aristocratie, bondissait sur son siège. Mais, malgré le tour un peu abstrait que Julien avait donné à la discussion, toutes les femmes fondaient en larmes. Madame Derville elle-même avait son mouchoir sur ses yeux. Avant de finir, Julien revint à la préméditation, à son repentir, au respect, à l'adoration filiale et sans bornes que dans les temps plus heureux il avait pour madame de Rênal. Madame Derville jeta un cri et s'évanouit. Une heure sonnait comme les jurés se retiraient dans leur chambre. Aucune femme n'avait abandonné sa place. Plusieurs hommes avaient les larmes aux yeux. Les conversations furent d'abord très vives, mais peu à peu, la décision du jury se faisant attendre, la fatigue générale commença à jeter du calme dans l'assemblée. Ce moment était solennel. Les lumières jetaient moins d'éclat. Julien, très fatigué, entendait discuter auprès de lui la question de savoir si ce retard était de bon ou de mauvais augure. Il vit avec plaisir que tous les vœux étaient pour lui. Le jury ne revenait point, et cependant, aucune femme ne quittait la salle. Comme 2 heures venaient de sonner, un grand mouvement se fit entendre. La petite porte de la chambre des jurés s'ouvrit. Monsieur le baron de Valenod s'avança d'un pas grave et théâtral. Il était suivi de tous les jurés. Il toussa, puis déclara qu'en son âme et conscience, la déclaration unanime du jury était que Julien Sorel était coupable de meurtre, et de meurtre avec préméditation. Cette déclaration entraînait la peine de mort. Elle fut prononcée un instant après. Julien regarda sa montre et se souvint de monsieur de Lavalette. Il était 2h15. « C'est aujourd'hui vendredi, » pensa-t-il. « Oui, mais ce jour est heureux pour le Valenod qui me condamne. Je suis trop surveillé pour que Mathilde puisse me sauver, comme fit madame de Lavalette. Ainsi, dans 3 jours, à cette même heure, je saurai à quoi m'en tenir sur le grand peut-être. » En ce moment, il entendit un cri et fut rappelé aux choses de ce monde. Les femmes autour de lui sanglotaient. Il vit que toutes les figures étaient tournées vers une petite tribune pratiquée dans le couronnement d'un pilastre gothique. Il sut plus tard que Mathilde s'y était cachée. Comme le cri ne se renouvela pas, tout le monde se remit à regarder Julien, auquel les gendarmes cherchaient à faire traverser la foule. Tâchons de ne pas apprêter à rire à ce fripon de Valenod, pensa Julien. Avec quel air contrit et patelin il a prononcé la déclaration qui entraîne la peine de mort. Tandis que ce pauvre président des assises, tout juge qu'il est depuis nombre d'années, avait la larme à l'œil en me condamnant. Quelle joie pour le Valenod de se venger de notre ancienne rivalité auprès de madame de Rênal. Je ne la verrai donc plus. C'en est fait. Un dernier adieu est impossible entre nous, je le sens. Que j'aurais été heureux de lui dire toute l'horreur que j'ai de mon crime. Seulement ces paroles, je me trouve justement condamné.
Chapitre 72. En ramenant Julien en prison, on l'avait introduit dans une chambre destinée aux condamnés à mort. Lui qui, d'ordinaire, remarquait jusqu'aux plus petites circonstances, ne s'était point aperçu qu'on ne le faisait pas remonter à son donjon. Il songeait à ce qu'il dirait à madame de Rênal, si, avant le dernier moment, il avait le bonheur de la voir. Il pensait qu'elle l'interromprait, et voulait du premier mot pouvoir lui peindre tout son repentir. Après une telle action, comment lui persuader que je l'aime uniquement? Car enfin, j'ai voulu la tuer par ambition ou par amour pour Mathilde. En se mettant au lit, il trouva des draps d'une toile grossière. Ses yeux se dessillèrent.
« Ah, je suis au cachot !» se dit-il, comme condamné à mort. « C'est juste !» Le comte Altamira me racontait que la veille de sa mort, Danton disait avec sa grosse voix « C'est singulier, le verbe guillotiner ne peut pas se conjuguer dans tous ses temps. On peut bien dire « je serai guillotiné, tu seras guillotiné », mais on ne dit pas « j'ai été guillotiné ».
Pourquoi pas, reprit Julien, s'il y a une autre vie.
Ma foi, si je trouve le Dieu des chrétiens, je suis perdu, c'est un despote. Et comme tel, il est rempli d'idées de vengeance. Sa Bible ne parle que de punitions atroces. Je ne l'ai jamais aimé. Je n'ai même jamais voulu croire qu'on l'aimât sincèrement. Il est sans pitié. Et il se rappela plusieurs passages de la Bible. Il me punira d'une manière abominable. Mais si je trouve le Dieu de Fénelon, il me dira peut-être « Il te sera beaucoup pardonné parce que tu as beaucoup aimé. » Ai-je beaucoup aimé? Ah, j'ai aimé Madame de Rênal, mais ma conduite a été atroce. Là comme ailleurs, le mérite simple et modeste a été abandonné pour ce qui est brillant. Mais aussi, quelle perspective! Colonel de hussards, si nous avions la guerre. Secrétaire de légation pendant la paix, ensuite ambassadeur, car bientôt j'aurais su les affaires. Et quand je n'aurais été qu'un sot, le gendre du marquis de la Mole a-t-il quelque rivalité à craindre? Toutes mes sottises eussent été pardonnées, ou plutôt comptées pour des mérites. Homme de mérite et jouissant de la plus grande existence à Vienne ou à Londres. Pas précisément, monsieur. Guillotiné dans 3 jours. Julien rit de bon cœur de cette saillie de son esprit. En vérité, l'homme a 2 êtres en lui, pensa-t-il. Qui diable songeait à cette réflexion maligne? Eh bien oui, mon ami. Guillotiné dans 3 jours. Répondit-il à l'interrupteur. Monsieur de Cholin louera une fenêtre, de compte à demi avec la bémation. Eh bien, pour le prix de location de cette fenêtre, lequel de ces 2 dignes personnages volera l'autre? Ce passage du Venchésias de Rotrou lui revint tout à coup. Ladislas. Mon âme est toute prête. Le roi, père de Ladislas. L'échafaud l'est aussi, portez-y votre tête. Belle réponse, pensa-t-il, et il s'endormit. Quelqu'un le réveilla le matin en le serrant fortement. Quoi, déjà? Dit Julien en ouvrant un œil hagard. Il se croyait entre les mains du bourreau. C'était Mathilde. Heureusement, elle ne m'a pas compris. Cette réflexion lui rendit tout son sang-froid. Il trouva Mathilde changée comme par 6 mois de maladie. Réellement, elle n'était pas reconnaissable. « Cette infâme frilaire m'a trahi !» lui disait-elle en se tordant les mains. La fureur l'empêchait de pleurer. « N'étais-je pas beau hier, quand j'ai pris la parole ?» répondit Julien. « J'improvisais, et pour la première fois de ma vie. Il est vrai qu'il est à craindre que ce ne soit aussi la dernière. » Dans ce moment, Julien jouait sur le caractère de Mathilde avec tout le sang-froid d'un pianiste habile qui touche un piano. « L'avantage d'une naissance illustre me manque, il est vrai, » ajouta-t-il. « Mais la grande âme de Mathilde a élevé son amant jusqu'à elle. Croyez-vous que Boniface de la Mole ait été mieux devant ses juges ?» Mathilde, ce jour-là, était tendre sans affectation, comme une pauvre fille habitant un 5e étage. Mais elle ne put obtenir de lui des paroles plus simples. Il lui rendait, sans le savoir, le tourment qu'elle lui avait souvent infligé. « On ne connaît point les sources du Nil, » se disait Julien. « Il n'a point été donné à l'œil de l'homme de voir le roi des fleuves dans l'état de simple ruisseau. Ainsi, aucun œil humain ne verra Julien faible. » D'abord, parce qu'il ne l'est pas. Mais j'ai le cœur facile à toucher. La parole la plus commune, si elle est dite avec un accent vrai, peut attendrir ma voix et même faire couler mes larmes. Que de fois les cœurs secs ne m'ont-ils pas méprisé pour ce défaut? Ils croyaient que je demandais grâce. Voilà ce qu'il ne faut pas souffrir. On dit que le souvenir de sa femme émut Danton au pied de l'échafaud. Mais Danton avait donné de la force à une nation de freluquets et empêché l'ennemi d'arriver à Paris. Moi seul, je sais ce que j'aurais pu faire. Pour les autres, je ne suis tout au plus qu'un peut-être. Si madame de Rênal était ici, dans mon cachot, au lieu de Mathilde, aurais-je pu répondre de moi? L'excès de mon désespoir et de mon repentir eut passé aux yeux des Valenod et de tous les patriciens du pays pour l'ignoble peur de la mort. Ils sont si fiers, ces cœurs faibles, que leur position pécuniaire met au-dessus des tentations. Voyez ce que c'est, auraient dit messieurs de Moirod et de Cholin, qui viennent de me condamner à mort, que de naître fils d'un charpentier. On peut devenir savant adroit, mais le cœur ne s'apprend pas. Même avec cette pauvre Mathilde, qui pleure maintenant, ou plutôt qui ne peut plus pleurer, dit-il en regardant ses yeux rouges. Et il la serra dans ses bras. L'aspect d'une douleur vraie lui fit oublier son syllogisme. « Elle a pleuré toute la nuit, peut-être, se dit-il. Mais un jour, quelle honte ne lui fera pas se souvenir ? Elle se regardera comme ayant été égarée dans sa première jeunesse par les façons de penser basses d'un plébéien. Le Croisenois est assez faible pour l'épouser, et ma foi, il fera bien. Elle lui fera jouer un rôle. » Du doigt qu'un esprit ferme et vaste en ses desseins a sur l'esprit grossier des vulgaires humains. Ah, ça, voici qui est plaisant. Depuis que je dois mourir, tous les vers que j'ai jamais su en ma vie me reviennent à la mémoire. Ce sera un signe de décadence. Mathilde lui répétait d'une voix éteinte. Il est là, dans la pièce voisine. Enfin, il fit attention à ses paroles. Sa voix est faible, pensa-t-il, mais tout ce caractère impérieux est encore dans son accent. Elle baisse la voix pour ne pas se fâcher. Et qui est là ? Dit-il d'un air doux. L'avocat, pour vous faire signer votre appel. Je n'appellerai pas. Comment ? Vous n'appellerez pas ? Dit-elle en se levant et les yeux étincelants de colère. Et pourquoi, s'il vous plaît ? Parce que, en ce moment, je me sens le courage de mourir sans trop faire rire à mes dépens. Et qui me dit que dans 2 mois, après un long séjour dans ce cachot humide, je serai aussi bien disposée. Je prévois des entrevues avec des prêtres, avec mon père. Rien au monde ne peut m'être aussi désagréable. Mourons. Cette contrariété imprévue réveilla toute la partie altière du caractère de Mathilde. Elle n'avait pu voir l'abbé de Frilair avant l'heure où l'on ouvre les cachots de la prison de Besançon. Sa fureur retomba sur Julien. Elle l'adorait. Et pendant un grand quart d'heure, il retrouva dans ses imprécations, contre son caractère, de lui, Julien, dans ses regrets de l'avoir aimé, toute cette âme hautaine qui jadis l'avait accablée d'injures si poignantes dans la bibliothèque de l'hôtel de la Mole. Le ciel devait à la gloire de ta race de te faire naître homme, lui dit-il. Mais quant à moi, pensait-il, je serais bien dupe de vivre encore 2 mois dans ce séjour dégoûtant, en butte à tout ce que la faction patricienne peut inventer d'infâme et d'humiliant, ayant pour unique consolation les imprécations de cette folle. Eh bien, après-demain matin, je me bats en duel avec un homme connu par son sang-froid et par une adresse remarquable. Fort remarquable, dit le parti Méphistophélès. Il ne manque jamais son coup. Eh bien, soit, à la bonne heure. Mathilde continuait à être éloquente. Parbleu, non, se dit-il, je n'appellerai pas. Cette résolution prise, il tomba dans la rêverie. Le courrier, en passant, apporta le journal à 6 heures comme à l'ordinaire. À 8 heures, après que M. de Rênal l'aura lu, Élisa, marchant sur la pointe du pied, viendra le déposer sur son lit. Plus tard, elle s'éveillera. Tout à coup, en lisant, elle sera troublée, sa jolie main tremblera, elle ira jusqu'à ces mots. À 10 heures et 5 minutes, il avait cessé d'exister. Elle pleurera à chaudes larmes, je la connais. En vain j'ai voulu l'assassiner, tout sera oublié. Et la personne à qui j'ai voulu ôter la vie sera la seule qui sincèrement pleurera ma mort. Ah, oh, ceci est une antithèse, pensa-t-il. Et pendant un grand quart d'heure, que dura encore la scène que lui faisait Mathilde, il ne songea qu'à Madame de Rênal. Malgré lui, et quoique répondant souvent à ce que Mathilde lui disait, il ne pouvait détacher son âme du souvenir de la chambre à coucher de Verrières. Il voyait la Gazette de Besançon sur la courte pointe de taffetas orange. Il voyait cette main si blanche qui la serrait d'un mouvement convulsif. Il voyait Madame de Rênal pleurer. Il suivait la route de chaque larme sur cette figure charmante. Mademoiselle de la Mole, ne pouvant rien obtenir de Julien, fit entrer l'avocat. C'était heureusement un ancien capitaine de l'armée d'Italie de 1796, où il avait été camarade de Manuel. Pour la forme, il combattit la résolution du condamné. Julien, voulant le traiter avec estime, le déduisit toutes ses raisons. « Ma foi, on peut penser comme vous, » finit par lui dire M. Félix Vaneau. C'était le nom de l'avocat. « Mais vous avez 3 jours pleins pour appeler, et il est de mon devoir de revenir tous les jours. Si un volcan s'ouvrait sous la prison, d'ici à 2 mois vous seriez sauvé. Vous pouvez mourir de maladie, » dit-il en regardant Julien. Julien lui serra la main. « Je vous remercie, vous êtes un brave homme. À ceci je songerai. » Et lorsque Mathilde sortit enfin avec l'avocat, il se sentait beaucoup plus d'amitié pour l'avocat que pour elle.